Vous y êtes pour une heure de sous-marin tout au fond de l'eau, comme tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 19h à 20h. Une heure d'actu qu'elle touche à la politique, à la vie étudiante ou associative, à l'économie, au sport ou à la culture. Et pour m'accompagner pendant cette heure en eau profonde, Clara, Flavien et Gino ont enregistré leurs 12 voix. En fin d'émission, vous retrouverez la traditionnelle bulle sonore. Tout le monde est à son poste, c'est parti. Ce week-end, c'est le joyeux anniversaire des musées d'Angers, 2 jours de célébration un peu partout dans la ville. Pour en parler, nous avons joyeusement invité Raphaël Hervé dans nos studios. C'est enregistré, c'était mercredi. Bonjour Raphaël Hervé.
Bonjour.
Vous êtes responsable du département des publics au musée d'Angers, musée avec un S. Ce week-end, c'est la nuit des musées, certes, mais à Angers, on célèbre aussi les anniversaires des musées de la ville. On a pu d'ailleurs voir les affiches partout dans les rues. On va peut-être brosser un petit peu l'historique de ces anniversaires-là. Il y a 30 ans, la galerie David d'Angers s'ouvrait sur son lieu actuel, après quelques travaux de l'architecte Pierre Prunet, avec ce fameux toit en verre d'ailleurs. Mais en fait, la galerie, elle existait avant dans le réfectoire du musée des Beaux-Arts. Pourquoi est-ce qu'on a transféré comme ça cette galerie?
Mais à l'emplacement actuel de la galerie David d'Angers, il y avait une abbaye qui était en ruine. Et donc, c'était un désir de la mettre de nouveau en musée. Et du coup, de pouvoir profiter de cet espace magnifique pour valoriser les œuvres de David d'Angers. Donc, en effet, les œuvres qui étaient présentées dans ce qui est maintenant le hall du musée des Beaux-Arts ont migré et ont déménagé à ce qui est maintenant la galerie David d'Angers. En effet, avec son architecture de verre, mais on voit encore tout à fait aussi l'abbaye qui est encore présente dans l'architecture de Pierre Prunet, là où il a voulu garder l'architecture de l'abbaye et puis faire aussi un geste très contemporain avec ce toit.
Alors en fait, le réfectoire du musée, c'est l'actuel hall du musée des Beaux-Arts.
Voilà.
On sait combien il y a de visiteurs chaque année à la galerie David d'Angers?
À la galerie David d'Angers, on doit être autour de 30 000 visiteurs par an. C'est un site qui est essentiellement visité par les touristes. On a très peu d'Angevins qui viennent. Donc,
c'est bizarre.
C'est pas bizarre dans le sens où c'est un lieu qui est une icône sûrement de la ville d'Angers, mais c'est aussi un lieu qui bouge peu parce que c'est une collection permanente de sculptures. Donc souvent les gens ont l'impression quand ils l'ont vu une fois de l'avoir vu pour toujours, et quand ils reviennent c'est souvent avec des amis qui sont de passage à Angers. Donc là justement aussi une des nouveautés, c'est qu'on va présenter une exposition dans la galerie David d'Angers. C'est la première fois depuis 30 ans qu'il y a une exposition dans la galerie David d'Angers, donc il faut en profiter et encourager. Voilà, il était temps. Encourager les Angevins à venir redécouvrir le lieu.
C'est quoi cette exposition?
Alors, c'est une exposition de dessins. Il y a eu l'année dernière une acquisition exceptionnelle de dessins de David d'Angers, des dessins qui sont préparatoires à une frise de balcon en fait qu'il a faite pour le théâtre de l'Odéon. Donc c'est une frise sur plusieurs mètres et on va à la fois présenter tous ces dessins préparatoires à ce balcon de l'Odéon, et puis d'autres dessins qui ont un rapport avec le théâtre de David d'Angers, qui sont dans nos propres collections. Donc c'est un événement en soi, en effet, pour la galerie.
On célèbre aussi un autre anniversaire en 2014, c'est les 10 ans de la réouverture du musée des Beaux-Arts après une rénovation qui a duré 5 ans. Pourquoi cette rénovation? C'était quoi les travaux en soi?
Alors là, c'était assez énorme comme travaux. L'ancien musée des Beaux-Arts, on va dire, avait vécu. On avait à la fois besoin de le rénover, mais aussi besoin de créer des nouveaux espaces, d'agrandir très largement cette surface. Donc il y a toute la partie des collections permanentes qui a été entièrement revue, des lieux qui ont été transformés, l'ancienne bibliothèque qui est devenue une salle, par exemple. Là aussi, il y a eu des gestes architecturaux assez forts, par exemple dans ce qui est maintenant les salles 20e, il y a une sorte de galerie suspendue qui abrite d'autres œuvres. Donc on a essayé de gagner de la place un petit peu dans le musée. Et puis surtout, on a creusé ce qui est maintenant la salle d'exposition temporaire, Donc un espace qui permettait voilà d'avoir une vraie surface d'exposition et puis aussi une surface malléable là où on peut avoir des espaces plus ou moins grands, ouverts, fermés, rajouter des murs. Donc voilà, c'était important je pense de on va dire rentrer dans le 21e siècle pour un musée comme le musée des Beaux-Arts et d'accompagner du coup tout le bouleversement architectural par une nouvelle muséographie, une nouvelle signalétique, des nouveaux services, une boutique, voilà.
Et des nouveaux visiteurs alors ou pas ?
Ah oui, certainement. Alors là, sur 10 ans, là, on est très heureux, c'est qu'il n'y a pas eu d'effet de chute. On aurait pu penser que au début, il y a un attrait un peu de la nouveauté et puis au fur et à mesure, la fréquentation qui baisse, mais pas du tout. On a réussi vraiment à fidéliser les visiteurs qui reviennent. Donc, c'est une fréquentation autour de 80 000 visiteurs par an. Donc, on est très, très contents.
Raphaël Hervé, est-ce que vous auriez une petite anecdote sur le musée des Beaux-Arts, sur les bâtisses, un passage secret, quelque chose comme ça?
Un passage secret, il y a toujours des passages secrets. Il y a aussi des bâtiments, on se demande ce qu'ils renferment, on sait parfois ce qu'ils renferment. Il y a la cour que vous voyez de l'extérieur qui est souvent protégée par une grille fermée, mais qui justement, cette cour est accessible aux occasions des nuits des musées, des journées du patrimoine. Il y a un nouveau bâtiment qui a été construit pour 2004 face à cette cour. Ce bâtiment, c'est le bâtiment qui renferme nos réserves. C'est un peu notre coffre-fort des musées. Et c'est toujours impressionnant de l'avoir aussi proche de nous voilà, au musée.
Alors le musée des Beaux-Arts, les Angevins le connaissent, la galerie David d'Angers aussi, même si bon, ouais. C'est pas la plus fréquentée, mais il y a des musées qu'on connaît moins, en tout cas qui sont un peu plus, discrets. Il y a le musée Pincé, il y a le château musée de Villevêque, et puis il y a le musée Jean Lursa de la tapisserie contemporaine qu'on connaît, mais qu'on connaît moins quand même.
Alors,
comment vous expliquez ça ?
Il y a des réponses différentes. Le musée Pincé, il est fermé. On espère pouvoir le réouvrir et remontrer ses collections extraordinaires d'art égyptien, romain, grec, chinois que beaucoup d'Angevins nous réclament parce qu'ils les ont vus il y a plusieurs années et maintenant aimeraient bien les revoir. Donc de manière exceptionnelle d'ailleurs on organise des visites là cette année une fois par mois pour voir un petit peu les locaux, même si on ne voit plus les œuvres qui sont à l'intérieur, mais le bâtiment qui a été entièrement restauré, vaut vraiment le coup d'être vu. Après, le musée Château de Villevêque, une ouverture un peu plus confidentielle, puisqu'il est ouvert que le week-end et que les après-midi. Avec moins de fréquentation aussi parce qu'il est loin d'Angers. Souvent ceux qui sont proches de Villevêque le connaissent bien parce que outre le fait d'être un musée, c'est aussi un très beau lieu de promenade. Voilà, pour les beaux jours, là, c'est une bonne occasion d'aller à Villevêque, de découvrir les salles du château, mais de découvrir aussi le parc qui est un très grand parc qui débouche sur le Loir et qui peut aussi en profiter pour vous baigner puisque juste au pied du château il y a une zone pour se baigner donc c'est atypique dans nos collections mais on a bénéficié d'un legs formidable à la fois en termes de qualité d'œuvre et puis de ce bâtiment donc on est content de pouvoir présenter des œuvres à l'intérieur de ce château.
Et le musée Jean Lursa de la tapisserie contemporaine, alors est-ce qu'il draine un public ?
Oui, tout à fait. Le musée Jean Lursa de la tapisserie contemporaine a même une fréquentation qui augmente tous les ans. Là aussi, on est peut-être sur un public un peu différent que le musée des Beaux-Arts. Le musée des Beaux-Arts est le plus fréquenté des Angevins. Le musée Jean Lursa, on a à la fois beaucoup de public touristique sur la partie du champ du monde de Jean Lursa, qui est dans cet ancien hôpital du 13e siècle, donc souvent les touristes font l'apocalypse et puis le chant du monde. Et puis sur la partie textile contemporain, c'est vrai qu'on a aussi un public pas forcément de connaisseurs, mais aussi de curieux qui viennent voir ce que c'est que le textile contemporain. Et c'est un musée thématique, donc peut-être plus de niche, mais avec du coup des visiteurs qui viennent vraiment de partout pour découvrir ce que c'est que l'art textile contemporain.
Vous nous avez cité les chiffres de fréquentation tout à l'heure. Est-ce qu'on a une idée de la part qui concerne les jeunes dans cette fréquentation-là? Est-ce que c'est facile d'amener les jeunes au musée?
Alors, c'est sûr que on a une part de scolaire qui est très importante dans notre fréquentation. J'imagine quand vous me posez la question, c'est aussi la part de jeunes qui viennent spontanément. C'est difficile de savoir exactement quelle est notre part de jeunes parce que on a le critère de la gratuité pour les moins de 26 ans qui s'applique dans tous nos musées. Donc, on a une idée du nombre de moins de 26 ans, mais qui ne nous renseigne pas après sur, voilà, par âge particulièrement, combien on a de jeunes. C'est sûr que pour la cible particulière étudiante, on a ce rendez-vous de la nuit des étudiants chaque année au mois de novembre,
qui draine
bien et qui fonctionne. On est autour de 1000 étudiants, au moins par soirée, donc on est content et on essaye de renouveler en tout cas le lien avec ces étudiants. On a fait quelques soirées là récemment dans le cadre du festival de la création universitaire au musée. Et puis après, c'est aussi une question de programmation. C'est vrai que quand on programme une exposition d'art contemporain, de photos, comme va s'ouvrir ce week-end, je pense qu'on aura aussi un public plus jeune que quand on programme une exposition sur les manuscrits comme il y a eu juste avant. On sait que pour chaque exposition draine un certain type de public. Donc là, on espère que pour cette exposition de photos, je pense que les étudiants vont être sensibles à ce type de programmation.
Alors justement, ce week-end, parlons-en. Parlons un peu de la programmation ou au moins des points forts de la programmation. Alors, il y aura un pique-nique dans les jardins du musée dimanche. Il y a aussi Ariane James-Sarrazin, qui est la directrice des musées d'Angers, qui va faire partager sa passion du dessin. Ça, c'est assez atypique.
Ouais, tout à fait. Alors là, ça concernera très peu de personnes. Donc, pour ceux qui sont motivés, il va falloir venir tôt. Mais en effet, elle va sortir des dessins des réserves d'art graphique. Et puis, les visiteurs qui seront présents à cet atelier auront tous leurs gants blancs et pourront manipuler les dessins. Ça sera à la fois une découverte des dessins, mais une découverte aussi de la technique. Et puis, en effet, des coups de cœur vraiment du directeur, de pourquoi elle a choisi ces dessins en particulier. Qu'est-ce qui font qu'ils ont une valeur sentimentale pour elle ou une valeur technique. Donc là, ça sera un moment très privilégié dans ce week-end.
Il y a aussi un agent de la galerie David d'Angers, Thierry Lévy, qui était là il y a 30 ans, donc au moment des travaux, qui va faire partager un petit peu l'histoire de la galerie.
Ça nous paraissait important de donner la parole aussi à ceux qui ont vécu tous ces bouleversements. Voilà, on est tous arrivés à des périodes différentes du musée. On n'a pas forcément vécu ni l'ancien musée des Beaux-Arts, ni l'ancienne, ce qu'il y avait avant la galerie David d'Angers. Mais on a plusieurs personnes au musée qui ont vécu toutes ces histoires. Donc à la fois le choix des architectes, mais aussi l'arrivée des sculptures, par grue, parce que on voit les volumes sont extrêmement importants, tous ces travaux. Donc c'était important pour nous de donner la parole, à la fois pour parler de l'histoire, mais aussi pour parler de justement qu'est-ce qui s'est passé pendant 30 ans. Et quand on est tous les jours à la galerie, comment est-ce qu'on le vit vraiment de manière intense.
Quel autre événement particulier vous nous conseilleriez, Raphaël Hervé?
Alors, il y a plusieurs événements qui à mon avis sont à découvrir impérativement. Il y a notamment en termes d'événementiel une compagnie qui s'appelle la Compagnie de la Constellation, qui est composée de plusieurs personnes de l'équipe de Canal+, qui sont des comédiens sur le ton de l'humour et de la visite loufoque et décalée, qui vont nous faire découvrir le musée des Beaux-Arts et la galerie David d'Angers. Donc il y aura trois visites revisite, ils appellent ça, le samedi soir, et il y en aura deux aussi le dimanche. On est sur des grosses jauges, là, on peut aller jusqu'à 200 personnes, et je pense que c'est quelque chose qui vraiment, voilà, il ne faut pas louper. On aura aussi au musée Jean Lurcet la tapisserie contemporaine de la danse contemporaine, avec la compagnie de Pedro Powells, qui est une compagnie qui intervient notamment au Quai Branly. C'est un projet qu'on a monté avec le CNDC, donc on est heureux aussi d'inviter d'autres arts dans les musées. Après, tout au long du week-end, on peut venir en toute autonomie dans les musées. Les musées sont gratuits les deux jours. Il y a beaucoup d'animations qui sont prévues et de parcours en autonomie, là où vous pouvez jouer, regarder, découvrir les œuvres. Il y a des médiateurs qui sont là pendant les deux jours. Donc il y a ce temps fort du samedi soir, mais c'est vrai que le samedi et le dimanche, il y aura aussi de l'activité. Et puis il y a un parcours presque dans la ville avec les commerçants. Puisqu'on a fait un partenariat assez exceptionnel avec les commerçants, en leur proposant d'exposer dans leur vitrine des œuvres originales des musées qu'on allait puiser dans nos réserves et qui ont un lien chacun avec leur activité d'origine. Donc à partir d'aujourd'hui, les objets commencent à arriver chez les commerçants partenaires, et puis on va pouvoir découvrir des objets qu'on n'a jamais vus parce qu'ils sont d'habitude cachés.
Musée dans la ville.
Voilà, exactement.
Pour finir, Raphaël Hervé, est-ce que vous pourriez nous dire quelle est la pièce ou l'œuvre que vous aimez particulièrement dans les musées d'Angers ?
J'ai un coup de cœur, on va dire, particulier pour les œuvres de François Morellet. Donc on est... en plus, à la fois un petit peu dans le local, puisque Morellet est à Cholet, et dans l'international, puisque c'est un des artistes français les plus connus. Mais je trouve que c'est une œuvre vraiment pleine d'humour et qui nous fait réfléchir à ce que c'est que l'art aujourd'hui. Donc c'est pas du tout impressionnant techniquement, d'ailleurs... Il ne touche pas à ses œuvres, mais justement, il n'y a pas forcément besoin de ça, il n'y a pas besoin forcément de savoir parfaitement peindre aussi pour nous réjouir et passer un bon moment dans les musées.
Donc ça, c'est au Musée des Beaux-Arts, dans la salle 20e siècle.
Voilà, exactement, on est dans les salles 20e.
Merci beaucoup Raphaël Hervé d'avoir été notre invité sur Radio Campus Angers.
Merci.
L'anniversaire des musées d'Angers, c'est donc demain et dimanche dans les 5 musées de la ville. Vous retrouvez tout le détail de la programmation sur le site internet www.musee.angers.fr. Tout de suite dans le sous-marin sur Radio Campus Angers, c'est Shangali avec Shaman. Clavien, rescapé de l'émission Micro-ondes, vous explique chaque vendredi quelque chose de scientifique dans le sous-marin. C'est court et ça passe dans votre radio. Ça s'appelle donc aussi Micro-ondes.
Bien le bonjour à vous, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous allons parler de notre ami commun, l'alcool.
Bon, messieurs, alors ça avance votre problème d'addiction, là?
Ah, parce que c'est nous qui avons un problème.
Plus précisément, nous allons essayer de comprendre pourquoi nous sommes quelquefois sous, ou bourrés, comme vous voulez. Prenons pour commencer le vin. On trouve certes de l'eau, du sucre et des arômes, mais aussi une molécule aux propriétés très particulières nommée l'éthanol. C'est ça l'alcool et c'est une toute petite molécule.
Ah, rien à voir avec de l'alcool. Oh. Là, on parle de terroir, de tradition. La gueule !
À cause de sa toute petite taille, l'éthanol n'a pas besoin d'être coupé en petits morceaux pour passer dans le sang. Autrement dit, pas de digestion. Donc il va librement à travers les parois de l'estomac, de l'intestin, enfin il va partout. Comme ça, tout l'alcool bu circule dans le sang vers toutes les cellules, et notamment les cellules cérébrales.
Cette potion-là que vous buvez tout le temps, là, entre vous et moi, là, quelque chose me dit que c'est un peu alcoolisé, non?
C'est là qu'il cause ses premiers effets. Et plus on en boit, et plus ses effets sont, comment dire, ils sont intéressants. Vos amis vous le rappelleront quand vous ne vous en souviendrez plus.
Alors que les amis, je sais ce qui est bon pour toi, tu vois. Bah, regarde-toi, t'es tout requinqué.
Alors, quel effet ça fait?
Oh, il faut reconnaître que c'est plutôt une boisson de moustachu.
L'éthanol va modifier les membranes des neurones. Les messages nerveux sont passés sous forme de messages chimiques, et ces messages chimiques sont en priorité ceux des mouvements que l'alcool bloque. Voilà pourquoi l'absorption d'alcool, même à dose modérée, provoque des modifications du comportement.
Il était complètement bourré.
Il a parlé?
Non, il a vomi.
À partir de 0,5 g d'alcool par litre de sang, un certain nombre de troubles sont observés. Alors d'abord, il y a l'euphorie. Yeehaw ! Suit un état d'ivresse, identifiable par les troubles moteurs qu'il cause. Par exemple, quand tu titubes de gauche à droite et que tu as une démarche de bourré. Bon, comment expliquer ces effets maintenant? Prenons les plus marquants. En premier, l'équilibre, quand tu titubes justement. L'équilibre, en fait, c'est régi grâce à du liquide qui est présent dans l'oreille interne. Normalement, le mouvement du liquide indique au cerveau si le corps est en équilibre. Et en cas de chute, le mouvement bouge, et il commande le rattrapage avec les pieds ou les mains. Enfin, tu te rattrapes, quoi. Mais l'alcool vient foutre le bordel et fait croire à ton cerveau que tu te casses la goule, alors que non, t'essayes de te rattraper pour des chutes qui en fait n'existent pas. C'est ce qui donne une démarche titubante. T'essayes de te mettre toujours en équilibre alors que tu tombes pas. Et dit dans le langage courant, c'est une démarche de bourré, quoi.
Le dernier pour la route.
Maintenant, la vue. En temps normal, le cerveau prend l'image de chaque œil et les assemble pour avoir un rendu nickel, mieux que Photoshop. Mais lorsqu'on boit, le cerveau nous transmet les deux superposés. Donc après, c'est encore une fois, c'est le bordel, hein. Et tu vois flou ou décalé, parce que les deux images sont superposées. C'est comme Canal+.
J'ai vu une grosse bête.
Enfin, l'effet que nous retenons malheureusement le mieux, c'est la gueule de bois. Elle est due à une forte déshydratation. La consommation d'éthanol bloque la production d'hormones dites antidiurétiques. C'est dur, hein. Ouais, je sais. C'est-à-dire d'hormones qui nous permettent de bien utiliser l'eau. Du coup, on rejette cette eau en allant faire souvent pipi, mais on l'utilise pas. Et comme le corps devient de plus en plus sec, le cerveau qui, lui, a besoin de vachement d'eau, nous fait bien comprendre que ça lui manque, hein, en te faisant mal à la tête.
Vive la nature !
Alors, petite astuce pour se réhydrater et éviter l'aspirine, et éviter un peu la gueule de bois, et enfin éviter les trucs chiants, quoi. Faut boire de l'eau à petite quantité et très froide. Voilà, c'est terminé. Et maintenant, j'espère que vous avez compris pourquoi vous êtes bourré en soirée. Et à la prochaine débauche, hein, vous allez pouvoir dire que vous faites une expérience scientifique et même l'expliquer.
Here come the men in black, a galaxy defender.
Merci Flavien. Et dans le sous-marin sur Radio Campus Angers, on retrouve Clara et sa chronique sexo qui, cette semaine, passe par derrière.
Le sexe anal, c'est la pratique sexuelle la plus taboue, même au sein des couples les plus libérés. Parce qu'il touche à une partie du corps souvent dénigrée, le sexe anal reste dans la plupart des esprits le sexe sale. Le sexe anal, ce n'est pas que la sodomie. Cela englobe des pratiques plus ou moins confidentielles et il existe de plus en plus d'adeptes qui, une fois le premier pas effectué et la peur envolée, reconnaissent à ces pratiques toutes leurs vertus. Pour commencer à appréhender ce genre de pratiques, on peut essayer plusieurs choses. Alors il y a les caresses anales, c'est une très bonne manière de commencer en douceur à pratiquer le sexe anal. Les caresses peuvent être prodiguées par l'un ou l'autre des partenaires et permettent de voir rapidement si cela vous convient ou non. Elles peuvent servir de préliminaire ou être utilisées en complément d'une autre pratique. Côté plaisir, la zone anale est richement innervée et constitue une zone érogène importante. Les caresses ou les sensations de frottement sont donc souvent à l'origine d'une excitation. Et pour lui, la zone anale de l'homme possède une sensibilité nerveuse comparable à celle du pénis. De nombreux hommes sont donc adeptes des touchers anaux, même au sein des couples hétérosexuels. Cependant, cette partie de l'anatomie est souvent synonyme de domination, et rares sont ceux qui se laissent aller. Les sextoys, la pénétration anale peut se faire à l'aide d'objets divers et variés. God, perle anale, plug. L'intérêt du sextoys est qu'il peut revêtir diverses formes originales, et chacun des partenaires peut en faire usage. Côté plaisir, la pénétration anale est souvent jugée agréable car elle stimule les terminaisons nerveuses de l'anus et le mouvement de va-et-vient du coït anal peut mener à l'orgasme. Et pour lui, ce n'est pas évident de proposer à son homme de le pénétrer, ça on est toutes d'accord. Pourtant, l'équivalent du point G masculin se situe au niveau de la paroi antérieure du rectum directement reliée à la prostate. Il y a aussi l'anal digitus, petit mot mignon, dans ce grand coït anal. C'est la pénétration des doigts à l'intérieur de l'anus. Côté plaisir, c'est une pratique répandue au cours de la masturbation féminine car elle est complémentaire des caresses anales qui stimulent une zone érogène. La pénétration anale est même comparée par certaines femmes à la pénétration vaginale. Et pour lui, c'est peut-être un premier pas en avant vers le passage du sextoys. Car comme la pénétration rectale chez les hommes est bien souvent synonyme de plaisir et le fait de ne pas utiliser d'objets extérieurs est plus intime. Il y a aussi l'anulingus, donc là c'est le contact oral-anal. Côté plaisir, de nombreuses personnes peuvent atteindre l'orgasme par cette pratique, car elle stimule une zone réactive sans passer par la pénétration. La position la plus adaptée est la levrette, car elle donne un accès plus facilement à la zone anale. Et pour lui, si vous ne doutez pas de la propreté de votre partenaire et que celui-ci ne possède pas d'idées négatives sur cette pratique, vous pouvez tout à fait la réaliser, la zone rectale chez l'homme étant extrêmement réactive. Et nous terminons bien sûr par la sodomie, qui est la pénétration de l'anus. Donc côté plaisir, une fois la peur et la douleur envolées, si vous y arrivez, et si les partenaires se laissent aller, l'excitation peut monter jusqu'à l'orgasme. Donc cette position est prisée des adeptes de relations dominant-dominées. Et pour lui, la sodomie est souvent agréable à pratiquer, car le pénis est plus serré dans l'anus que dans le vagin. Et le mouvement de va-et-vient est alors plus efficace. Et pourquoi les hommes aiment ça? Eh bien, il y a quand même un homme sur trois qui pratique régulièrement la sodomie. Donc si vous acceptez de vous y adonner, votre partenaire de jeu peut laisser libre cours à son fantasme de domination. D'un point de vue physique, le coït anal est un pur moment de jouissance pour l'homme. Et les femmes qui acceptent de pratiquer la sodomie et qui y prennent du plaisir sont peu nombreuses. Seulement 25% d'entre vous avouent avoir déjà tenté l'aventure. Et seulement 10 sont réellement appréciées. Donc certaines refusent encore par peur d'avoir mal ou tout simplement parce que la perception de cette position leur semble dégradante. Avec un partenaire attentif, ces réticences disparaîtront. Enfin, j'espère pour vous.
Clara, notre chroniqueuse sexo du vendredi qui donne à tous de bons conseils avant d'attaquer ce week-end tout de suite sur Radio Campus Angers. On écoute Woods avec Moving to the Left.
Oh,
ce matin, c'était la conférence de presse du Shabada pour présenter ce qu'ils appellent la Birthday Party XXL. On récapitule pour les retardataires. Cette année, c'est les 20 ans du Shab. Pour fêter cet anniversaire, la salle ne se contente pas d'une soirée, mais préfère distiller ça sur l'année. Le temps fort pour l'équipe, ce sera les 6, 7 et 8 juin prochains avec donc la Birthday Party XXL. On a pour l'occasion discuté avec le programmateur de la salle, Stéphane Martin, pour comprendre un peu comment il avait goupillé l'affiche. Bonjour Stéphane Martin.
Bonjour, bonjour.
Alors aujourd'hui, on vous avait détaillé la prog de la Birthday Party XXL. C'était quoi votre ligne en préparant la prog? Parce que ça passe du rapto de Zen à l'afrobeat de Blitzy Ambassador en passant par du vieux rock garage.
Il n'y avait pas de ligne directe. En fait, c'était suivant les humeurs, les envies. Alors, les groupes, on s'est dit, bon, ça serait bien qu'on les ait. C'est-à-dire que Samba de la Muerte. Le nouveau projet de Adrien, le clavier des Concrete Knives, auquel participe Corentin, Olivier, l'ex-chanteur des Danseurs. On travaille avec eux depuis cette année, donc on avait vraiment envie de les présenter. Le projet est en démarrage. Come from this land of desire. Mustang, leur album était sorti, on a des liens avec ce groupe, donc on avait envie qu'ils soient présents. Je ne veux plus chanter, je ne veux plus jouer, je voudrais pouvoir tout oublier. François avait en mémoire les Octopus Project d'Austin, en disant ça serait bien qu'on ait un groupe d'Austin. Donc la fabrication de la programmation s'est faite un peu comme ça, sur en se disant ça serait bien d'avoir un tel, ça serait bien d'avoir un tel, sans vraiment penser à une cohérence artistique quelconque. D'ailleurs, on peut noter des manques, hein, évidemment, toutes les musiques actuelles ne sont pas représentées. Au 2Z, moi j'avais vraiment envie de les avoir. Il fallait à un moment donné, ça aurait été à la rentrée, mais là ils étaient dispo, ils faisaient quelques dates avant l'été, donc c'était parfait de les choper. Blitzy Ambassador, c'était un peu ça aussi. Oh, puis un nouvel album il sort. Lui, ça a déjà joué sur Tempo Riff, mais peu importe, c'est un super truc. Donc voilà, je pense qu'il y a des découvertes. Les deux headliners sont rappeurs. C'est assez drôle, mais du rap décalé aussi, ce qui est assez curieux. Il n'y avait pas vraiment de ligne directrice. C'était vraiment aux envies, au coup de cœur. Même on s'est fait un peu violence à un moment en disant là, on a un petit peu trop de groupes, il faut qu'on se calme. C'est de trouver. Proposant un truc pas cher, donc effectivement des artistes pas chers aussi pour l'achat, donc d'avoir le plus de propositions possible pour le week-end et qui représente un petit peu notre programmation du Shabalab, même si ce n'est évidemment qu'une partie de ce qu'on peut programmer, quoi.
Il y a quelques cartes blanches, on pense à Indie Music ou à Casamix. C'est une manière de déléguer aussi et de se dire on va pas tout faire en notre nom, voilà, le Shabada.
Bah oui, il y a des partenaires. On avait l'idée de départ, est-ce qu'on met des groupes d'Angers sur la programmation? On s'est dit après tout, est-ce que les spectateurs ont envie de voir des groupes d'Angers qu'on propose déjà pas mal sur toute l'année? On s'est dit bon, non, on va faire appel à des structures. Donc on avait pensé à Indie Music, qui d'ailleurs avec qui on parle depuis un petit moment de collaboration sur le live. Ce webzine aujourd'hui a pris de l'importance, il est accrédité à Bourges sur plusieurs gros festivals, voilà, ça, il a une audience nationale maintenant, donc ça me paraissait normal de le présenter au public aussi. Ce qui est à la fois c'est dans les deux sens, c'est-à-dire que nous on s'appuie sur eux pour qu'ils nous amènent une programmation, et à la fois nous on a envie que les gens sachent que ces choses-là existent parce qu'ils font vivre la musique à Angers et au-delà. Donc c'est donnant-donnant sur cette opération-là. Donc ils ont fait la programmation et ils ont proposé Cold Silver, c'est Rainmaker. Sur Casamix, Fred, on se connaît depuis longtemps, il fait un gros travail à Angers lui aussi, en direction des groupes angevins, mais pas que. Donc voilà, lui donner une carte blanche. Voilà, la carte blanche, elle va se faire avec les mixtapes de l'apéro, qui est une équipe qu'on suit aussi régulièrement dans le cadre notamment des soirées premier plan. Donc voilà, il y avait cette envie-là, et puis l'envie de travailler avec Dirty Frenchy pour le pique-nique électronique, la structure que portent aujourd'hui Arnaud Gonzalez et Florian Champion. C'est aussi de présenter aux Angevins les gens avec lesquels on travaille. Il n'y a pas que pour nous, et puis il y a d'autres gens qui travaillent dans le cadre des musiques actuelles à Angers. C'est aussi notre rôle, nous semble-t-il, de montrer ça au public. qu'il y a que le Chabala, enfin que la musique actuelle, ce n'est pas que le Chabala arrangé. Il y a plein de partenaires. C'est pour ça qu'il y a des groupes de Radical Production, des groupes de Liglou. Enfin voilà, il y a toujours un petit lien pour que Angers, enfin la musique actuelle Angers ne se résume pas au Chabala. Et Dieu merci.
On l'a attendu longtemps cette prog finalement de la birthday party. Est-ce qu'il y avait des attentes? Est-ce que vous avez attendu par exemple le résultat des élections en mars? Est-ce que la nouvelle mairie a joué un rôle ou pas?
Non, pas vraiment. Bah, c'est vrai qu'on a travaillé de toute façon pour ça. Sans s'occuper heureusement des résultats des élections, ce qui sont, voilà, nous on a un travail à faire et donc il fallait qu'on fête cette chose-là. Effectivement, il y a un moment où changement de municipalité, voilà, on s'est interrogé sur le suivi par cette municipalité de notre projet. Ils suivent, donc voilà, on n'attendait pas moins d'eux. De toute façon, nous, ça nous paraît évidemment important de fêter notre anniversaire et une structure comme le Chabala, suivie par la ville, voilà, ça, voilà, on est dans une logique parfaite, il n'y a aucun problème.
En termes de réservation, vous en êtes où déjà? Il y a combien de places en vente et combien sont déjà réservées, vous savez?
Alors, il y a 700, on a calculé à peu près 700 billets à vendre par soirée. On a fait une opération au mois d'avril, on a vendu une cinquantaine de passes de jour à 15 euros, qu'on avait vendu 100 annoncé la programmation, donc ça, je trouve ça bien. On avait mis 50 passes en vente, on en a vendu 45 tout de suite, donc c'est plutôt un bon retour. Là, les réservations sont assez timides, mais évidemment le tarif étant extrêmement bas, il est unique. Ce sera le même prix à l'entrée qu'en réservation, donc du coup plus cher en réservation si on l'achète dans certaines enseignes qui se permettent de majorer le prix du billet. Donc c'est ça qui va nous angoisser jusqu'au bout, c'est qu'on aura le suspense, que je pense que les gens, il y aura beaucoup de ventes à la porte, que je pense que les Angevins vont surveiller la météo et se dire, est-ce que je vais au Chabala ou est-ce que je vais au bord de la mer. Donc voilà, on prend aussi ce pari-là. Vu la concurrence des festivals qu'il y a autour de nous, on ne pouvait pas se permettre de vendre plus cher, donc ça aurait généré des réservations. Donc on avait vraiment envie que ce soit le plus bas possible. Et évidemment, quand c'est le plus bas possible, on ne peut pas savoir, les gens ne vont pas réserver. Donc pour nous, le suspense, il va être jusqu'au bout. Moi, je trouve qu'on a, pour l'instant, on a des bons retours sur les propositions, enfin la programmation. Je trouve que les gens sont assez contents, ceux que j'ai croisés en tout cas. Peut-être que je n'ai croisé que des gens contents et que les grincheux m'évitent. Mais voilà, donc je pense qu'on va flipper, qu'on ne sera pas sûr de faire complet. Peut-être qu'on ne fera pas complet. En tout cas, on pense que cette programmation est une belle programmation. Elle reflète le Chabala. Après, évidemment, c'est aux gens de décider si elle leur convient ou pas. Il y a des belles surprises, il y a des points d'accroche, des gens qu'on connaît, mais il y a des gens à découvrir. Et voilà, je pense qu'on va effectivement flipper pendant un petit moment, mais j'espère bien qu'on fera 700 payantes par soir et qu'il y aura des invités, bien évidemment, puisqu'on ne peut pas, sur un anniversaire, ne pas avoir d'invités. Mais bon, voilà, pour nous, tout va bien.
Si vous aviez deux groupes, ça va être dur. Hein. Deux groupes à donner, à pas manquer, mais vraiment absolument pas manquer, parce qu'on va pas refaire toute la prog.
Non, c'est impossible. Ça. Moi, j'ai d'abord, parce que je suis attaché à tous ces groupes-là, évidemment, si on les a programmés, c'est que... Non. Alors, peut-être Octopus Project, parce que c'est leur première tournée en France, donc il faut être les premiers à découvrir ce groupe-là. Voilà, peut-être que oui, c'est l'Octopus, ouais, je dirais Octopus, parce qu'il y a ce lien avec Austin, ça, voilà, puis c'est eu leur première tournée en France, donc à découvrir. Moi, je les ai pas encore vus live, François est le seul d'entre nous à avoir vu le groupe live, donc oui, je suis assez surpris de voir ça, mais comme je suis surpris, j'ai envie de voir tous les autres, évidemment, même ceux que je connais bien déjà, et j'ai toujours envie de voir Mustang, j'ai toujours envie de voir Pégase, pas mieux.
Juste un petit mot sur l'agenda 21 pour la rentrée prochaine. Il y a un agenda 21 qui va être revu avec un nouveau cahier des charges en juin fixé par la mairie. Comment ça se passe?
Non, l'agenda 21 est déjà ici notre préoccupation depuis 2 ans, c'est-à-dire qu'on travaille dans ce sens. Hein, donc l'agenda 21, alors c'est toujours un peu compliqué à expliquer. Disons que c'est c'est ça. À chaque fois, je ne trouve pas les mots pour l'expliquer. Donc cherchez sur Internet. Je suis désolé. Donc oui, on renouvelle notre délégation de services publics à la rentrée et évidemment, nous nous inspirons du travail généré par l'agenda 21 autour d'une nouvelle gouvernance, d'une nouvelle façon de travailler, d'une nouvelle façon de vivre notre métier. Évidemment, tout ça est prégnant dans le nouveau dossier de délégation de service public que nous allons rendre à la ville, qui choisira peut-être ce dossier pour que nous soyons reconduits ou pas, a priori j'espère bien qu'on le sera, l'an prochain pour à nouveau 5 ans.
Merci Stéphane Martin.
Merci à vous.
Toute la programmation de la Birthday Party XXL est en ligne sur le site web du Chabada, évidemment. Restez à l'écoute du 103 FM, vous gagnerez sans doute des places pour ce week-end anniversaire. Dans le sous-marin, Mathilde, notre chroniqueuse culture n'est pas là, mais je vous livre quand même un petit agenda culturel pour la semaine prochaine. Je n'ai pas les cheveux orange, mais je me lance. Ce soir, Romain sur Sèvres, Dom La Nena et Rosemary Stanley présentent leur tout nouveau projet à 20h30, Birds on a Wire. Elles seront demain à l'abbaye de Fontevraud à 18h. Rosemary Stanley, à qui nous avons téléphoné hier. Et donc l'interview est à réécouter en podcast sur notre site web. Demain, on vous en a parlé aussi en début de sous-marin, c'est l'anniversaire des musées d'Angers. Notez par exemple les visites anniversaires du musée des Beaux-Arts, les performances de danse de la compagnie Pedro Powels au musée Jean Lursa ou encore les confidences de la directrice des musées Ariane James-Sarrazin qui parle de sa vision du dessin. Demain à Angers, c'est aussi la Gay Pride après la traditionnelle marche des fiertés. Un DJ set au Caligny. La journée s'achèvera au Shabada dès 22h et jusqu'à 4h du matin. Si vous aimez le cinéma mais que vous vous ennuyez au bout d'une demi-heure devant un film, ce qui est dommage, la Nuit en Or est faite pour vous. C'est un événement national qui propose de projeter les meilleurs courts-métrages mondiaux en passant par le Canada, le Luxembourg ou encore l'Islande. À Angers, ça se passe lundi au 400 coups et c'est à partir de 20h15. Au programme de notre SMAC Angevine, dont on vient de parler avec Stéphane Martin, le Shabada, notez un on-stage spécial conservatoire mercredi, avec entre autres Burn School, que l'émission Turbulence avait reçu et qui nous avait fait le plaisir d'une petite compo intitulée McFleury, un grand moment de radio. Jeudi, au bar du Quai, Balkan Beat Party avec Terminal 12 et DJ Spock, ça va sentir l'Europe de l'Est. Jeudi aussi, au T-Rock, programmation éclectique avec Fumée Tu, de l'électropunk bordello strasbourgeoise, de la cave, du Gloomy Wave venu de Metz et Free Pulse du rock angevin. Pour la suite, c'est Mathilde qui vous racontera ça la semaine prochaine. Pour l'agenda de la soirée, pour savoir ce que vous devez faire ce soir, Gino, notre stagiaire, va vous parler.
Ce soir à 20h15 au Welsh, soirée cabaret avec la Lima. À 20h30 au VNB, les The Jackson 4 chanteront. Au Terre Coco à 20h30, soirée Angela X Metal 3. Au Théâtre de la Comédie à 20h30, se jouera la pièce Le Gay Mariage. Dans le cadre du festival Gypsy King, à 20h30 au quai, concert du Gypsy Unity. Et à 22h30 au bar du quai, concert du Jimenez Trio. À 21h, au Joker's Pub, il y aura Black Horse Serenade avec Iris et Goran Lucin. Les Cheap Motels seront au West Indies Café à 21h. Au Jacaré à 22h aura lieu Solid Records. Et DJ Cranks mixera à l'Okapi à 22h30.
Et puis à Beaucouzé, la compagnie singulière mêle cirque et danse dans la création Aparté, c'est à 20h30 à la Maison de la Culture et des Loisirs de Beaucouzé. Donc voilà, il est l'heure de débrancher les hydrophones. Vous pouvez réécouter cette émission sur le www.radiocampusangers.com. On vous laisse avec la bulle sonore. Tous les dimanches, Radio Campus Angers rediffuse Vos gueules les mouettes, l'émission barrée de Radio Piaf. Présentée par Sacha Béard et ses acolytes. La semaine dernière, il parlait vampire, mais à la première écoute, c'est pas évident. Passez donc une très bonne soirée sur Radio Campus Angers, un très bon week-end aussi. Nous, on se retrouve lundi à 19h. Allez, bisous.
Bonsoir Augustin, les vampires ont su t'aspirer pendant la préparation de l'émission ?
Écoute, moi je voudrais commencer par un coup de gueule.
Ta carte blanche.
Si tu me permets, parce que je crois que j'ai l'impression que trop de gens, à commencer par certains journalistes du très prestigieux British Medical Journal.
Enfin, prestigieux entre guillemets.
Certains pensent encore que les vampires ne peuvent vivre que la nuit. Et que, que la lumière du soleil suffirait à les réduire en cendres, comme ça, un coup de baguette magique, sûrement. Et il se trouve que cette conception complètement archaïque du vampire commence sérieusement à me taper sur les nerfs.
T'es pas le seul, hein.
On est quand même en 2013, bientôt 14, et je crois que nos enfants ont le droit d'apprendre que les vampires peuvent parfaitement se déplacer le jour, si les circonstances l'exigent. C'est simplement que le jour, leurs pouvoirs démoniaques sont diminués, c'est tout.
Merci Augustin pour ce plaidoyer.
Si seulement la lumière pouvait réduire en cendres certains journalistes du très prestigieux British Medical Journal.
Marc, mon grand, comment ça va ?
Moyennement, Sacha. J'entends un bruit constamment qui m'empêche de rester tranquille.
Ah, ce sont sans doute des acouphènes, Marc.
Non, ma respiration.
Mais sinon, Marc, comment ça va vraiment ?
Bah, je sais pas, tu pourrais demander à Augustin.
Augustin ?
Nickel. Appelle Chrome.
Non, mais en fait, ma question, non, c'est, je veux dire, quel est le résultat de l'addition Marc plus Augustin ?
Oh là là !
Bah, tu vois un livre qui serait écrit dans une langue ? et qui, au fil des pages, changerait de langue et qui deviendrait de plus en plus grossier.
Ah, ça doit être assez
c'est Augustin.
Embêtant.
C'est Augustin. Il suffit, Marc. Ah,
voilà, il suffit.
Mais tu entends, Sacha?
Augustin.
Il suffit.
Le mec après, qui s'allonge sur les sentiments des autres et il dort très très bien. Il fait pas de nuit blanche. Hein, ouais, ça, c'est sûr. Hein.
Bah, disons génial, que le mec. Ta morsure en mon cœur. Tiendra lieu de coït.
Ah, la poésie sans intérêt.
Les flots ininterrompus me sont un dépucelage permanent, voilà, mademoiselle.
Génial. Eh ben, mademoiselle. Bonjour à la colocation, vous deux.
Génial, fils de pute.
Allez, c'est ça, smiley qui pleure. Super réjouissant.
We all live in a yellow submarine. Yellow submarine. Yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.